Histoire de la Réformation du XVIe siècle, livre 11, chapitre 12. Le Toggenburg, une assemblée du peuple, Réformation, les Grisons, dispute d'Ilanz, résultat, réforme à Zurich. Ainsi, la Réformation avait de tous côtés des luttes à soutenir. Et après avoir combattu avec la philosophie rationaliste d'Érasme et l'enthousiasme fanatique des anabaptistes, elle avait encore affaire avec elle-même. Mais sa grande lutte était toujours avec la papauté. Et elle poursuivait maintenant jusque sur les montagnes les plus reculées l'attaque commencée dans les villes de la plaine. Les montagnes du Toggenburg avaient entendu sur leur hauteur le son de l'Évangile, et trois ecclésiastiques y étaient poursuivis par ordre de l'évêque, comme inclinant à l'hérésie. « Qu'on nous convainque, la parole de Dieu à la main, » disaient Militus, Doring et Farrer, « et nous nous soumettrons non seulement au chapitre, mais encore au moindre des frères de Jésus-Christ. Autrement, nous n'obéirons à personne, pas même au plus puissant des hommes. » C'était bien là l'esprit de Zwingle et de la Réformation. Bientôt, une nouvelle circonstance vint échauffer les esprits dans ces hautes vallées. Une assemblée du peuple y avait lieu le jour de Sainte-Catherine. Les citoyens étaient réunis, et deux hommes de Schwitz, venus pour affaires, dans le Toggenburg, se trouvaient à l'une des tables. La conversation s'engagea. « Ulrich Zwingle, s'écria l'un d'eux, est un hérétique et un voleur. » Le secrétaire d'État, Steiger, prit la défense du réformateur. Le bruit attira l'attention de toute l'assemblée. George Brugmann, oncle de Zwingle, qui se trouvait à une table voisine, s'élança de sa place avec colère en s'écriant « Certainement, c'est de Maître Ulrich que l'on parle !» Et tous les convives se levèrent et le suivirent, craignant une bataille. Le tumulte devenant toujours plus grand, le bailli rassembla à la hâte le conseil en pleine rue, et l'on pria Brugmann, pour l'amour de la paix, de se contenter de dire à ses hommes « Si vous ne vous rétractez pas, c'est vous qui êtes coupable de mensonges et de vols. » « Rappelez-vous ce que vous venez de dire, » répondirent les hommes de Schwitz. « Nous nous en souviendrons nous-mêmes. » Puis ils montèrent à cheval et reprirent en toute hâte le chemin de Schwitz. Le gouvernement de Schwitz adressa alors aux habitants du Toggenburg une lettre menaçante qui répandit la terreur dans les esprits. « Soyez forts et sans aucune crainte, » écrivit Zwingle au conseil de sa patrie. Que les mensonges qu'on débite contre moi ne vous inquiètent pas. Il n'y a pas un criailleur qui ne puisse m'appeler hérétique. Mais vous, abstenez-vous d'injures, de désordres, de débauches et de guerres mercenaires. Secourez les pauvres, protégez les opprimés. Et quelles que soient les insultes dont on vous accable, ayez une assurance inébranlable dans le Dieu Tout-Puissant. Les encouragements de Zwingle firent effet. Le conseil hésitait encore, mais le peuple, réuni en paroisse, arrêta d'un accord unanime que la messe serait abolie et qu'on serait fidèle à la parole de Dieu. Les conquêtes n'étaient pas moins grandes dans la Rhétie que Salandronius avait dû quitter, mais où Commandre annonçait l'Évangile avec courage. Les anabaptistes, il est vrai, en prêchant dans les Grisons leur doctrine fanatique, avaient fait d'abord un grand tort à la Réformation. Le peuple s'était trouvé partagé en trois parties. Les uns s'étaient jetés dans les bras de ces nouveaux prophètes. D'autres, étonnés, interdits, considéraient ce schisme avec inquiétude. Les partisans de Rome, enfin, poussaient des cris de triomphe. On s'assembla à Ilanz, dans la Ligue grise, pour une dispute. Les soutiens de la papauté d'un côté, les amis de la réforme de l'autre, réunirent leurs forces. Le vicaire de l'évêque chercha d'abord un moyen d'éviter le combat. « Ces disputes entraînant de fortes dépenses, dit-il, je suis prêt à déposer, pour les couvrir, 10 000 florins, mais j'en exige autant de la partie adverse. » « Si l'évêque a 10 000 florins à sa disposition, s'écria du milieu de la foule une voix rude de paysan, c'est de nous qu'il les a extorqués. En donnant encore une fois autant à ces pauvres prêtres, ce serait trop vraiment. Nous sommes de pauvres gens à bourse vide, dit alors Commandre, pasteur de Coire. À peine avons-nous de quoi payer notre soupe. Où trouverions-nous 10 000 florins ? Chacun rit de cet expédient et l'on passe à outre. Parmi les assistants se trouvaient Sébastien Hofmeister et Jacques Hamann de Zurich. Ils tenaient en main les saintes écritures en hébreu et en grec. Le vicaire de l'évêque demanda qu'on exclût les étrangers. Hofmeister comprit que cela le regardait. « Nous sommes venus, dit-il, munis d'une Bible grecque et hébraïque, afin qu'en aucune manière on ne fasse violence à l'écriture. Cependant, plutôt que d'empêcher le colloque, nous sommes prêts à nous retirer. »« Ah ! » s'écria le curé de Dinsen en regardant les livres des deux Zurichois. « Si la langue grecque et la langue hébraïque n'étaient jamais entrées dans notre pays, il y aurait moins d'hérésie. » Saint Jérôme, dit un autre, nous a traduit la Bible. Nous n'avons pas besoin des livres des Juifs. Si l'on exclut les Zurichois, dit le banneret du Hans, la commune s'en mêlera. Eh bien, dit-on, qu'ils écoutent, mais qu'ils se taisent. Les Zurichois restèrent, donc, et leur Bible avec eux. Alors Commandre, se levant, lut la première des thèses qu'il avait publiées. L'Église chrétienne, y était-il dit, est née de la parole de Dieu. Elle doit s'en tenir à cette parole, et ne pas écouter d'autre voix que la sienne. Puis il prouva ce qu'il avait avancé par de nombreux passages des Écritures. Il marchait d'un pas assuré, dit un témoin oculaire, et posait chaque fois son pied avec la fermeté du bœuf. « Cela dure trop longtemps, dit le vicaire. Quand, à table avec ses amis, il entend les joueurs de flûte, dit Hofmeister, il ne trouve pas que cela dure trop longtemps. Alors on vit se lever et s'avancer du milieu de la foule un homme qui agitait les bras, qui clignait des yeux, qui fronçait les sourcils et qui semblait avoir perdu le sens. Il s'élança vers Commandre et plusieurs crurent qu'il allait le frapper. C'était un maître d'école de Coire. « Je vous ai posé par écrit diverses questions, » dit-il à Commandre. « Répondez-y à cette heure. »« Je suis ici, » dit le réformateur Grison, « pour défendre ma doctrine. Attaquez-la et je la défendrai. Sinon, retourne à ta place. Je te répondrai quand j'aurai fini. » Le maître d'école demeura un moment en suspens. « À la bonne heure, » dit-il enfin, et il retourna s'asseoir. On proposa de passer à la doctrine des sacrements. L'abbé de Saint-Luc déclara que ce n'était pas sans crainte qu'il abordait un tel sujet, et le vicaire effrayé fit le signe de la croix. Le maître d'école de Coire, qui déjà une fois avait voulu attaquer Commandre, se mit à établir, avec beaucoup de volubilité, la doctrine du sacrement d'après cette parole. « Ceci est mon corps. »« Cher Bère, » lui dit Commandre, « comment comprends-tu ces paroles ?» Jean est Élie. Je comprends, reprit Bère, qui vit où Commandre en voulait venir, qu'il a été Élie, véritablement et essentiellement. Et pourquoi donc, continua Commandre, Jean-Baptiste a-t-il dit lui-même aux pharisiens qu'il n'était pas Élie? Le maître d'école garda le silence et reprit enfin. Il est vrai. Tout le monde se mit à rire, même ceux qui l'avaient engagé à parler. L'abbé de Saint-Luc fit un long discours sur la scène, et l'on termina la conférence. 7 prêtres embrassèrent la doctrine évangélique. Une pleine liberté religieuse fut proclamée, et le culte romain fut aboli dans plusieurs églises. Christ, selon l'expression de saint Landronius, croissait partout dans ces montagnes comme l'herbe tendre du printemps, et les pasteurs étaient comme des sources vivantes qui arrosaient ces hautes vallées. La réforme faisait des pas encore plus rapides à Zurich. Les dominicains, les augustins, les capucins, si longtemps ennemis, étaient réduits à vivre ensemble. Enfer anticipé pour ces pauvres moines. À la place de ces institutions corrompues, on fondait des écoles un hôpital, un séminaire de théologie. La science, la charité prenaient partout la place de la paresse et de l'égoïsme.